If you're an EU citizen living in the UK with children, there's something that needs to go at the top of your to-do list. Check if you need to apply to the EU Settlement Scheme for your children, even if you have already applied for yourself. Doing this before the 30th of June 2021 deadline will protect their existing UK rights to things such as free healthcare and further and higher education. Support is available to help you apply. Get started today at gov.uk/EU Settlement Scheme. Irish citizens or those with valid indefinite leave don't need to apply.
Vous écoutez RMC.
Appelez-nous supporters de l'OM au 32-16. Cette question qu'on se pose ce soir, communication agressive depuis de longs mois déjà, loin de, du séducteur et charmant et élégant Villas-Boas qu'on a connu la saison dernière à Marseille. Nerveux, agressif, pourquoi est-il aussi tendu le coach de l'OM? Écoutez aujourd'hui, trois jours donc après sa passe d'armes avec un journaliste, un confrère de la Provence. Hein.
Passe d'armes.
Il lui a carrément menacé de le taper.
Il lui a fait un très clair.
Tête.
T'aimes ça, toi?
Écoutez, aujourd'hui en conférence de presse, Villas-Boas s'est pointé aujourd'hui en conférence de presse. Il avait une lettre à la main, il s'est assis. Alors que les journalistes voulaient s'expliquer avec lui, il a pris la parole spontanément.
J'ai eu une réaction que je regrette. Le fond de ma pensée ne change pas. Mais je comprends que la forme ait pu provoquer votre critique. Elles sont justes. J'ai pas un problème ni avec la presse, ni avec la critique. Mais j'ai mal vécu comme personne les deux articles que pour moi attaquent ma dignité et intégrité comme professionnel et comme personne. J'ai eu la réaction qu'une personne ne peut pas avoir. Je la regrette et je suis prêt à m'excuser devant le journaliste.
Bon, hein, faut t'excuser à moitié pardonner, hein, c'est ce qu'on dit. Voilà, bon, c'est bien. Il s'excuse, il a compris, peut-être qu'il était recadré. Bon, après, sur le fond, nous, on n'est pas là pour faire du corporatisme, même si, personnellement, moi, je trouve ça scandaleux, ce comportement, vis-à-vis d'un homme qui fait son travail, tout simplement. Votre réaction par rapport à ça, messieurs, déjà?
Vas-y, Kev.
Bah, écoute, moi, je connais pas les tenants et les aboutissants, mais on avait hier...
L'histoire, c'est un papier sur le bilan de Villas-Boas en Ligue des Champions, avant Marseille, au Zénith, notamment, à Porto.
Hier,
ils ont expliqué qu'il n'avait jamais été brillé sur la scène européenne.
Hier, Romain Canuti nous disait que ce journaliste en question avait fait donc un papier acerbe sur le parcours et le travail de Villas-Boas en Ligue des Champions avec ses précédents clubs et avec l'OM. Hein? Ok, bon, ça, on peut l'accepter. Ensuite, il avait quand même employé, je n'excuse en rien, hein, l'agressivité ou l'attitude que je condamne de Villas-Boas, mais quand même, ce terme, hein, que Romain nous a rapporté d'Aristo de Porto, ça peut aussi.
Oui, dans un papier cette semaine publié dans la Provence.
Ça peut agacer aussi l'entraîneur qui est déjà sous pression et il a mal réagi, il a très mal réagi. Maintenant, comme je dis depuis plusieurs semaines, encore une fois, je ne cautionne pas, mais par contre, je comprends la frustration et l'énervement de l'entraîneur. Parce que oui, je le répète, bien sûr, ils ont été catastrophiques en Ligue des Champions. Mais tout le monde avait dit il y a 6 mois qu'ils seraient catastrophiques en Ligue des Champions. Et ils l'ont été, d'accord. Alors peut-être les supporters rêvaient à une qualification et ça ils en avaient le droit, mais en tout cas en championnat ils remplissent les objectifs. Et franchement, personne n'aurait pensé que l'OM avec deux matchs en retard serait à cette position au classement et avec un tel nombre de points à la fin du mois de décembre. Et celui qui dit le contraire, c'est un menteur. Il a été frustré par cette défaite contre Rennes, parce que pour une fois, son équipe maîtrisait son sujet, maîtrisait le match,
jouait bien.
Et par contre, au moment du carton rouge, Villas-Boas, qui est quelqu'un de très intelligent, sait que son équipe, même quand elle est dans un beau jour, elle n'a aucune marge. Et jouer à 10 contre 11, on l'avait vu contre Lyon, ils sont pas capables. Il y a plein d'équipes qui sont capables.
Nul contre Lyon.
Bravo à Nice, qui hier a joué à 10 contre 11 et qui à 0-0 a gagné 2-0 avec un jeune entraîneur là qui moi me plaît en tout cas dans son discours. On va voir ce que ça donne. J'espère qu'il aura sa chance. Mais en tout cas, l'OM, pour finir, Villas-Boas le sait, son équipe n'a pas de marge. Voilà pourquoi il était très très agacé de cette décision arbitrale, parce qu'il savait que sinon il aurait sûrement gagné ce match.
Juste rapidement, on va donner la parole à Jonathan, puis on accueillera Lewis au 32-16 également. Je pense qu'il en veut surtout à son équipe, il le dit pas. C'est un état de nervosité ambiant parce qu'il a loupé complètement sa saison en Ligue des Champions. Il sait, il n'est pas entraîneur depuis 2 ans, il sait ce que ça implique d'être entraîneur, d'autant plus de l'Olympique de Marseille, il ne découvre pas l'environnement marseillais. Il s'est planté complètement en Ligue des Champions avec ses joueurs, il ne doit pas forcément s'en prendre à la presse.
Alors,
ça, c'est un état d'esprit général.
Il est
tendu, Villas-Boas, depuis 3 mois, vraiment,
oui.
parce qu'il s'est loupé.
Il y a plusieurs choses. La première, c'est que ce comportement colérique, un petit peu Dr Jekyll, Mr Hyde, un petit peu je rejette la faute sur les autres, je m'énerve contre les journalistes, c'est une surprise pour nous en France, mais ce n'est pas une surprise pour les gens qui ont pu suivre notamment sa carrière en Angleterre. Il y a beaucoup tous les confrères de Nicolas, donc journalistes qui ont suivi Villas-Boas en Angleterre, ont dressé ce portrait-là. Ça ne les étonne pas. C'est les coups de gueule qu'ont de la presse, les altercations avec les journalistes. C'est quelque chose qui n'est pas inhabituel chez lui.
Petit José Mourinho.
Exactement. C'est pour rien qu'on l'appelait le spécial tout. La deuxième chose, c'est que il faut comprendre comment est le microcosme à Marseille avec les médias. Il y a une relation qui est toujours assez étroite entre les journalistes. C'est toujours un petit pôle de journalistes
qui s'entendent
tous plutôt bien et qui ont en général des bonnes relations avec le club. Je trouve que les relations sont fluides. Les conférences de presse, les questions, etc., c'est assez fluide, c'est filmé, c'est en direct. Les gens savent, le club sait que c'est regardé. Et il y a une espèce de bonne entente entre tous les correspondants à Marseille.
Il y a une solidarité aussi.
C'est pas rare de voir Flo Germain invité chez le Fosséen, sur le toit du Fosséen, de voir nos amis de la Provence sur le toit du Fosséen. Donc il y a une forte solidarité entre ces gens-là, peut-être plus que dans les pôles de journalistes qui suivent d'autres clubs. Donc c'est normal que ça ait pu choquer. La troisième chose à dire, c'est qu'à Marseille, il faut quand même le dire, on aime bien quand les entraîneurs ont de la gueule, ont du panache et remettent en place les journalistes. Je me rappelle d'Éric Guéret qui avait poussé 2-3 coups de gueule en conférence de presse. Je me rappelle de...
Non mais c'est différent, un coup de gueule et un tête-tête.
Excuse-moi. Je me rappelle comme ça de 2-3 exemples, de Roland aussi qui avait pu se friter avec 2-3 journalistes, mais avec sa verve. Mais le problème, c'est que là, l'énervement de Villas-Boas, ce qui se traduit de cet énervement, c'est que tu as l'impression qu'il, d'une part, il est vexé. Il est vexé comme un petit enfant, vexé à cause du parcours en Ligue des Champions, qu'il est énervé de pas avoir eu de dessert, un petit peu, pour faire le parallèle, ça me fait penser à ça. Et d'autre part, ce qu'il en ressort, c'est que t'as l'impression qu'il perd un petit peu la maîtrise, et qu'à partir du moment où il perd la maîtrise, il est pas capable de s'adapter. Et ça, moi, je trouve ça très
étonnant,
grave.
C'est étonnant.
Et une dernière chose pour conclure, qui, moi, m'inquiète, pour le coup, un petit peu, c'est que ça prouve une chose pour moi. Kevin nous en a souvent parlé, c'est quelqu'un qui a pas forcément besoin d'entraîner. C'est vrai qu'il vient d'une bonne famille, c'est vrai qu'il a d'autres ambitions, notamment faire Paris-Dakar, etc. Moi, quand on parle de négociations pour prolonger André Villas-Boas, alors j'ai dit ce que j'avais à dire sur ses qualités d'entraîneur. Pour moi, je pense que c'est limité et qu'il y a peut-être mieux à trouver. Mais en tout cas, quand je vois ce comportement-là, ça m'inquiète parce que si c'est comme ça la deuxième saison, quand il y a 2-3 obstacles, qu'est-ce que ça va être si l'équipe est vraiment dans un vrai coup de dur en championnat?
Attendez les gars, Lewis est avec nous, supporter de l'OM au 32-16. Salut Lewis.
Salut les gars.
Bienvenue dans l'After Lewis, heureux de t'accueillir.
Salut Lewis. Merci.
Bon, voilà, alors, la question initiale qui ouvrait ce débat, c'était est-ce que le comportement de Villas-Boas sur la durée peut impacter son équipe et également son avenir? C'est ce que dit Jonathan.
Sur le court terme, non, je pense pas, parce que là, ils ont réglé l'histoire, entre guillemets, avec le journaliste de la Provence. Ouais. Après, je pense que il restera peut-être pas l'année prochaine, quoi. Je pense. Puis après, c'est peut-être bien aussi pour l'OM, je sais pas, mais moi j'ai regardé la conférence de presse tout à l'heure, ça se voyait qu'il était pas content. D'habitude, il est content, il est sympa. Oui. Là, ça se voyait, il y avait de la rancœur un peu.
Il a plus le même regard que l'an dernier.
De toute façon, moi je pense qu'il a un sentiment d'injustice, André Villas-Boas. Moi, je le répète depuis plusieurs semaines. Et moi, je lui donne pas tort.
Et qu'est-ce qui est injuste?
Qu'est-ce qui est injuste? L'OM n'a pas le niveau. Tout le monde savait que l'OM n'avait pas le niveau. Je viens de le dire il y a 5 minutes, Nico. Tout le monde l'a dit. Si, on le disait. L'OM n'aura pas le niveau. Ils vont se qualifier, ils vont rien faire en Ligue des Champions. Résultat, l'OM n'a rien fait en Ligue des Champions. Donc tout le monde s'y attendait. Par contre, tout le monde disait.
On savait que l'OM ne se qualifierait pas pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions.
Mais c'est la manière.
C'est la manière. On aurait pu espérer quand même à Marseille.
Mais Rennes a fait mieux.
Mais qui est de l'envie, l'enthousiasme.
Le PSG sont meilleurs par rapport à ce que
veut faire. Rennes n'est pas Marseille. Il n'y a pas le même contexte.
Le PSG n'est pas Marseille encore là, historiquement.
Et je pense pas que Julien Stéphane ait le même salaire que Villas-Boas aussi.
Chacun aura son avis. Moi, pour moi, on est beaucoup trop dur.
Marseille s'est planté en Ligue des Champions.
On est beaucoup trop. Mais alors, on parle pas de Ligue des Champions, on parle de Ligue 1.
Tu recommences, c'est comme Patrick Vieira, tu veux à tout prix le défendre. Mais je pense que pour le défendre, tu veux. Non, mais écoute, si tu veux le défendre, parce que je peux comprendre que tu l'aimes bien. Mais parfois, quand c'est comme avec tes enfants, parfois, faut mettre 2-3 fessées et dire, il y a des choses qui sont mal faites. Et là, tu l'as dit. T'as dit que tu cautionnais pas, mais là franchement Kevin, il faut avouer, et on va demander à Lewis aussi, très franchement, ce comportement qu'il a en conférence de presse depuis 2-3 mois, enfin 2 mois, ça donne pas une bonne image, ni de lui, ni du club.
Est-ce qu'on se rend compte, je répète ce que je dis depuis plusieurs mois, s'il y en a qui sont pas d'accord, je l'accepte, mais tu ne me feras pas changer d'avis. En France, on pense que Thomas Tuchel, il a rien à faire au PSG. On pense que Rudy Garcia, il a rien à faire à Lyon. On pensait pour Vieira pareil. On pense que Gourcuff, il est nul. On pense que Villas-Boas, il a rien à faire là. Mais je veux dire, il y a un moment, les gars, arrêtez de croire que le problème de notre football, c'est toujours l'entraîneur. L'entraîneur, il est premier virtuellement avec deux matchs en retard. Et on n'arrête pas de le critiquer. On lui dit qu'il a été nul en Ligue des Champions. Mais en Ligue des Champions, de toute façon, l'effectif n'a pas le niveau. Oui, j'aurais été mieux.
J'ai ajouté un petit truc. Parce que tu parlais d'un mot important, avant de laisser la parole à Lewis, tu parlais d'injustice. Moi, je me rappelle juste d'une chose. Un match là où vraiment tout le stade a senti un fort sentiment d'injustice. J'y étais, j'étais hyper nerveux. C'est le match contre Lyon, sous Marcelo Bielsa, où Lucas Ocampos marque ce but. Il peut repousser l'OM dans la course au titre. Et le but, alors le ballon rentre, l'arbitre n'accorde pas le but. Oui. Marcelo Bielsa, en conférence de presse, je pense que le sentiment d'injustice, il avait jusque là. Et on se rappelle de ces mots, il faut savoir avaler le venin. Bah, moi, j'aimerais bien que Villas-Boas, tu vois, sur les 2-3 derniers mois, oui, il arrive à avaler le venin et à se concentrer sur ce qu'il fait de bien en championnat. Non, parce que, juste, attends, Kevin, moi, je dois avouer une chose, et là, ça va aller dans ton sens. Depuis qu'il est repassé enfin à deux attaquants, il y a quand même du mieux dans le jeu et je trouve que c'est intéressant.
Ouais. Non mais surtout, est-ce que vous avez vu les résultats? Alors là, je les ai pas sous les yeux pour vous dire la vérité. Est-ce que vous avez vu les résultats depuis que Villas-Boas est là contre les gros en Ligue 1? Non mais rien que ça déjà. On disait que Rudy Garcia ne gagne pas un match contre les grands en Ligue 1. Bielsa, il n'a pas fait beaucoup mieux. Regardez, je vous invite à regarder, j'ai vu ça cette semaine, très intéressant sur Twitter. Regardez les résultats de l'OM contre les gros en Ligue 1 depuis qu'il est là.
Mais pas Bielsa et Villas-Boas dans la même phrase, s'il te plaît.
Mais Bielsa, c'est Bielsa. Alors, Villas-Boas, c'est Villas-Boas. En tout cas,
pour l'instant, je donne la parole à Lewis quand même, qui nous a appelé Lewis.
Ouais, non, moi je suis un peu d'accord avec Kevin. En France, on aime bien allumer les entraîneurs. Alors après. Après, Villas-Boas, il a des défauts. La Ligue des Champions, ça passe pas. Il a fait n'importe quoi, mais il est pas tout seul. Hein. Quand je dis il, c'est au pluriel. C'est même les joueurs. Un mec comme Payet, il a pas le niveau. Faut être clair. Après, je pense que en Ligue 1, il est très bon. Faut le laisser aller jusqu'au bout de la saison. Et puis après, on verra de toute façon.
Non mais. Moi, je suis toujours étonné parce qu'en général, quand un entraîneur est si nerveux en conférence de presse, régulièrement, il l'a fait, hein, chez nos confrères Téléfoot, à Bein Sport également, régulièrement face à la presse, pas que.
Avec Eric, d'ailleurs, par rapport à Eric Dimeco.
Avec
aussi.
Eric Dimeco, pour ceux qui voient des complots partout également, anti-marseillais, avec l'ancienne direction à qui il a mis attaquer la semaine dernière en conférence de presse aussi. Quand un coach est nerveux comme ça, tu sais, ça sent la fin en général. Alors que lui, finalement, il est là, il est quatrième de Ligue 1, il a deux matchs encore à jouer. Marseille gagne ses rencontres.
Potentiellement leader.
Marseille progresse en Ligue 1, en tout cas. Et donc, j'ai du mal à comprendre un petit peu pourquoi.
Mais tu sais que peut-être.
Pourquoi il ne se calme pas semaine après semaine.
Lewis pourra nous le dire, mais moi, j'ai l'impression, en tout cas, moi, j'ai eu beaucoup d'amis marseillais qui étaient très contents de la sortie de Villas-Boas ce week-end et du petit coup de pression. Moi, je te le dis, il y en a plein de supporters marseillais comme ça.
Tu me parles par rapport aux journalistes?
Pas forcément par son agressivité, hein, mais je veux dire par le fait qu'il défende son équipe, qu'il défende ses résultats, qu'il soit à fond dans le projet, qu'il a envie que ça marche et qu'il soit agacé quand son équipe elle perd. J'ai vu ce hashtag je suis AVB et j'en ai vu pas mal.
C'est deux choses différentes, ça, Kevin, dont on parle.
On parle de cette situation, on parle de son énervement, de sa, on parle
du fait qu'il défende son équipe, qu'il soit motivé, que on peut prendre cette frustration comme de la rage, mais de la rage positive. Mais il y a aussi le fait que plusieurs fois, d'une part, il dépasse les limites comme avec le journaliste, d'autre part, cette attitude complotiste comme il a pu avoir vis-à-vis d'Eric Dimeco par exemple, ou comme il a pu avoir sur Bein Sport, ça témoigne pour moi d'une certaine fébrilité. Et c'est quand t'es susceptible à ce point là, c'est que t'es pas bien. Si t'es serein, t'es pas susceptible à ça.
Moi, je vais vous dire, écoutez. Je vais vous dire ce que je pense. Vous me dites si vous êtes d'accord. Si les entraîneurs, d'accord, tous les entraîneurs de Ligue 1, là, s'ils avaient autant d'argent sur le compte en banque que Villas-Boas, ils enverraient chier plus souvent les gens. Je vous le dis, Villas-Boas, il en a rien à faire. Quand il a un truc à dire, il le dit. Si un jour son dirigeant lui dit, écoute, je te mets à la porte parce que t'as dépassé les bornes, il va s'excuser et puis il va rentrer chez lui et puis il va aller avec ses chevaux et faire son Paris-Dakar. Et donc, ce que je vous dis là, c'est une vérité. Je peux vous dire que s'il y avait un peu plus d'entraîneurs qui avaient déjà fait la carrière qu'il a eue, je pense que des fois, ils se lâcheraient un peu plus. Je dis pas que c'est bien,
J'ai l'impression que je suis pas allé à Ligue 1 depuis longtemps parce qu'il y a des entraîneurs qui ont certainement pas autant d'argent qu'André Villas-Boas, mais t'inquiète pas qu'ils ont bien envoyé chier, comme tu dis, la presse, les journalistes.
Parle pas des journalistes en particulier.
On a quand même eu une série de gueulards et de gens conflits, d'entraîneurs conflictuels avec les journalistes sur les 10 dernières années. On pourrait faire une collection et d'ailleurs, les jingles qu'on a, merci à eux parce que ça nous a bien alimenté.
C'est pour ça que c'est pas le seul qui, des fois, pète un plomb.
Ah bah non. Bon. Est-ce que t'as envie de comparer Villas-Boas à René Girard? Pas trop, et je pense que lui non plus.
René Girard, il a sa carrière.
On dirait René Girard un peu là.
Je remercie Lewis. Excellente soirée, Lewis.
Salut. Ça marche à vous aussi, les gars.
À très vite dans l'after. Je rappelle effectivement que demain, Marseille joue à 19h, réception de Reims. On sera là pour débriefer cette rencontre dans l'after du samedi soir. Messieurs, tiens, petite info marseillais également. Sachez que le AVB, le Villas-Boas et sa direction ont demandé le report du match contre Lens prévu le 3 janvier prochain. Match, un des deux matchs, hein, que l'OM doit jouer en retard. Et il y a Lens le 3 janvier. Nice n'a pas été encore programmé. Il l'a fait parce qu'il aimerait que ses joueurs soufflent après un premier semestre intense, Ligue des Champions, Ligue 1. Il faudrait que ces joueurs viennent à l'entraînement le 2 janvier et non pas le 29 décembre si la date est maintenue du 3 janvier face à Lens. Ils ont pris contact avec le RC Lens.
Ouais, que t'allais dire, ils ne voulaient pas que Clément Turpin arbitre ce match.
Qu'est-ce qu'il prend Turpin? Écoutez, je vous écoutais hier, vous êtes dur.
Après, sa gestion du match, c'est vrai.
Oui, mais bon.
If you're an EU citizen living in the UK, there is support available to help you apply to the EU settlement scheme. These include a practical step-by-step guide to the process and a helpline if you would like to speak to someone. You still need to apply even if you have permanent residence. We're here to help. Visit gov.uk/EU settlement scheme to get started today. The deadline is 30th of June 2021. Irish citizens or those with valid indefinite leave don't need to apply.